Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. Dans deux jours, lundi, pour la première fois, ils seront face à face. Et l'affrontement, bien sûr, sera sans merci. Hillary Clinton et Donald Trump disputeront le premier des trois débats télévisés qui vont ponctuer aux États-Unis les dernières semaines de campagne avant l'élection présidentielle du 8 novembre. Une campagne sidérante, des tombereaux d'accusations et d'injures, un niveau de violence rarement atteint dans le débat public, des centaines de millions de dollars déversés sur les écrans télé et les réseaux sociaux, et deux candidats autant détestés l'un que l'autre par une majorité de leurs concitoyens. Hillary contre le Donald, la femme dont on dit qu'elle est froide, fuyante, à laquelle on reproche depuis trop longtemps d'incarner le système, face au battleur milliardaire qui a compris mieux que quiconque la colère d'une certaine Amérique et qui a fracassé à son avantage tous les codes de comportement. On ne parle plus programme, plateforme, compétences, ce que l'on guette et ce que l'on commente, ce qui fera finalement la différence, peut-être, c'est le caractère, le tempérament, la personnalité, et ce sera bien là, dès lundi soir, le critère de la défaite ou de la victoire. Pour en discuter, merci d'être là. Laurence de Rosen, vous êtes psychologue, clinicienne et psychanalyste. Vous avez été formée aux États-Unis où vous avez longtemps travaillé et vous avez collaboré à un ouvrage tout à fait étrange pour le profane que je suis, qui est une analyse du narcissisme à l'époque de Donald Trump, un ouvrage tout à fait savant qui réunit donc 18 psychanalystes de l'école jungienne. Ça, j'ai compris.
Non. Psychiatre.
Psychiatre de l'école Jungien.
Non, bien. Psychiatre et psychanalyste.
Et psychanalyste, d'accord. Donc on voit déjà mon niveau d'ignorance. Avec nous aussi, et je le remercie, Jean-Luc Hesse, qui a été 10 ans correspondant à Washington et qui publie une biographie d'Hillary. Thomas Snegaroff, historien que l'on entend avec bonheur sur nos antennes et qui a écrit aussi sur le couple Clinton. Et nous aurons tout à l'heure, par téléphone, Roger Cohen, qui est éditorialiste au New York Times. Laurence de Rosen, je commence avec vous. J'avais compris que la présidente de la Société de psychanalyse américaine avait mis en garde vos confrères, vos collègues, en disant « Nous ne pouvons pas rendre publique une analyse du Donald, puisque nous ne l'avons pas examiné, ni les uns ni les autres, et donc je vous demande de vous abstenir. » Mais cet ouvrage, c'est exactement le contraire, et il y a toutes sortes de propos tout à fait saisissants sur le personnage Trump, qui serait donc le narcisse à l'époque des réseaux sociaux.
Alors, vous faites allusion là à la règle de Goldwater qui est écrite en 73. Elle a été écrite à la suite de critiques qui ont été faites sur Barry Goldwater en 64, qui lui a probablement valu une partie de la Maison Blanche d'ailleurs. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit, en effet, on ne pouvait pas critiquer un homme politique si on n'avait pas fait le diagnostic. Donc, les temps ont changé. Les réseaux sociaux sont apparus et apparemment, les gens ont changé d'optique. Je voudrais quand même spécifier que tous ne parlent pas de Trump, mais beaucoup parlent de Narcisse.
Trump, Narcisse, en quoi est-il un cas singulier ?
Je ne sais pas. Alors, moi-même, je vais vous dire, je n'ai jamais rencontré Donald Trump.
Mais vous l'avez vu comme nous tous.
Je l'ai vu et je me fie à ce que je vois et donc aux apparences. C'est tout le problème de Narcisse, c'est qu'on va être se fier sur les images. Donc, est-ce qu'il est un cas d'école ? Il est en tout cas un cas de qui porte le narcissisme ambiant aux États-Unis. Dire si Donald Trump est narcissique, il a un certain nombre de traits narcissiques. Je pourrais vous les citer et vous y retrouverez tout à fait, mais je ne peux pas vous dire s'il est vraiment narcissique.
Mais le livre reprend un certain nombre de propos qu'on a entendus au fil de la campagne où il dit « je suis le plus grand, je suis le plus beau, je suis le plus fort, je suis le plus riche ». Mes attributs sexuels ne sauraient être contestés, même si j'ai de petites mains. On a l'impression que c'est un homme qui, au fur et à mesure d'une campagne dans laquelle il s'est lancé comme un battleur de télé-réalité, à tel point d'ailleurs que beaucoup de journalistes ne savaient pas s'il fallait le classer dans la catégorie de l'entertainment ou de la politique, au fur et à mesure de son succès immense, il s'observe, il se regarde et il s'épanouit dans ce rôle-là. Il se félicite.
Et il s'absorbe, il s'identifie. Le problème avec le narcissisme, c'est qu'on parle d'image. N'oubliez pas que Narcisse ne savait pas que l'image dont il tombe fou, amoureux, ne fait pas partie de lui. Quand les gens disent Narcisse s'aime, c'est faux. Narcisse ne s'aime pas puisqu'il ne sait pas que celui qui regarde est un autre. Il ne sait pas que c'est lui, pardon. Il croit que c'est un autre. Donc c'est tout le problème qu'on aura avec Narcisse, c'est qu'il va se perdre dans les apparences, dans les images, dans les illusions, dans les fantasmes, et il ne pourra pas rentrer en relation avec cette image. Il ne va pas pouvoir réintérioriser cette image en disant « c'est moi ». Et il va mourir d'amour. Dans l'histoire, il meurt d'amour parce qu'il ne peut pas, en effet, aimer quelqu'un à l'intérieur. Il veut aimer quelqu'un à l'extérieur. Évidemment, il va mourir.
Alors, donc, Donald Trump aime Donald Trump. Enfin, il le dit en tout cas.
Il aime l'image et les apparences qu'il donne. Alors, il y a ce sentiment. Enfin, je voudrais quand même revenir. On est tous un peu narcissiques. D'accord.
Sûrement, certains.
Il ne s'agit pas de l'être ou pas l'être. Non, il ne s'agit pas de l'être ou ne pas l'être. Il s'agit de savoir combien on l'est. Donald Trump a un certain nombre de traits de Narcisse, mais qu'on retrouve chez d'autres hommes politiques et même chez d'autres femmes politiques.
Sinon que là, il a poussé le comportement à un niveau, je dirais, d'extravagance par rapport au code.
Oui, mais on parle beaucoup d'image et d'apparence. Il y a une dimension importante dans le narcissisme qui est le manque d'empathie. Et c'est assez troublant parce que, en fait, Donald Trump donne l'impression d'être très engagé et il est le roi des réseaux sociaux. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il est empathique.
Pourtant, dans les meetings, ses militants, eux, expriment une empathie telle qu'il peut dire une chose et son contraire dans la même journée, ils sont tout aussi ravis. Jean-Luc Hesse, avec Hillary Clinton, on a l'impression qu'on a un personnage qui est aux antipodes.
J'en profite parce que là, ça me fascine ce qu'on dit sur le narcissisme. Vous avez lu aussi, parce que j'ai lu dans votre livre, Christine, que vous aviez lu cet article dans le New Yorker de Tony Schwartz, le monsieur qui avait écrit la géographie.
Le nègre
oui,
l'art du deal de Donald Trump. Oui.
Et il dit, cet homme-là est un trou noir vivant. Et par exemple, il a un problème avec la réalité, la vérité. Alors, je ne sais pas si ça se rapproche du narcissisme, mais ça m'y fait songer. C'est-à-dire que ce qu'il dit... Il sait pas si c'est vrai ou pas, mais il s'en fout, quoi. Et puis, s'il l'a dit, c'est que c'est vrai. Et puis, si c'est pas vrai, ça devrait être vrai. Alors, je me demande si ça conforte un peu le propos que vous aviez sur...
C'est tout à fait ça. Le narcissique, non seulement il a ce sentiment de grandiosité, mais il va se croire supérieur et il n'est pas conscient de la différence. Le concept de différence lui échappe complètement puisqu'il sait pas que l'autre ne lui appartient. Donc, il n'a aucune idée du différent. Le monde est le prolongement de lui-même. Donc il va vivre d'illusions, tout ce qui est différent de lui va être faux, évidemment, et refusé.
Alors, pour répondre à la question sur le caractère d'Hillary Clinton, moi je suis fasciné par cette femme, donc je ne suis pas objectif du tout et j'ai peur que ce soit le danger qui guette qui me fait aimer passionnément aujourd'hui Hillary Clinton bien plus qu'il y a 6 mois ou 1 an ou il y a 10 ans. Mais je suis très étonné par quelque chose et ça touche au féminisme ou à la misogynie. Je me demande si son caractère est devenu un sujet central dans la campagne. Est-ce qu'on demanderait à De Gaulle aujourd'hui, est-ce qu'on vous trouve sympathique ou est-ce que votre coiffure
c'est une femme, donc évidemment.
C'est une femme, on peut lui poser la question. Vous êtes ambitieux, c'est comme si c'était un défaut. Vous êtes têtu, volontaire, obstiné, vous vous battez jusqu'au bout pour vos idées. C'est reçu négativement. Et ça me fait penser que la misogynie, elle est même plus latente dans cette campagne. Elle est inavouée, on ne peut plus dire.
Mais elle est exprimée d'ailleurs par Donald Trump. Il faut quand même se souvenir qu'il avait ricané parce que qu'elle avait profité de la pause d'un débat télévisé pour aller se laver les mains. Et donc, ce n'est qu'une femme. C'est tout à fait Thomas Nagaroff.
Et puis, elle est face à ce double standard permanent qu'elle a elle-même formulé, d'ailleurs, qui est de dire, vous attendez d'une femme qu'elle montre qu'elle a la capacité d'être présidente, donc qu'elle surjoue une forme de virilité, de force, de capacité à être le commander-in-chief, parce que c'est quand même toujours ça, la fonction présidentielle.
Et d'abord, et c'était ça, la grande question de sa campagne de 2008.
Absolument. Et en 2008, d'ailleurs, alors que ses conseillers lui expliquaient, mais en face, c'est Barack Obama qui joue la carte de l'identité, finement, pas de manière vulgaire, finement. Il faut absolument, pourquoi ne pas jouer la carte de la féminité? Parce qu'elle disait, je n'ai aucune expérience internationale, il faut absolument d'abord que les Américains s'imaginent, se visualisent en moi comme étant l'incarnation potentielle de la nation, qui est quand même une nation guerrière, militaire, qui est engagée sur deux conflits en même temps. Et donc en 2008, elle avait joué cette carte-là. Mais en jouant à ce point la carte de la force, elle s'était coupée de toute forme d'empathie. Et elle apparaissait comme un glaçon froid, distant. Et la personnalité d'Hillary Clinton, elle se pose aujourd'hui, mais elle se posait encore bien plus en 2008. Entre-temps, elle est devenue secrétaire d'État. Donc la question de l'hypothèque tombe. Elle n'a plus besoin de prouver absolument qu'elle a la capacité de l'être. Elle a été 4 ans quand même la chef de la diplomatie américaine. Et donc elle peut maintenant jouer la carte de la féminité, mais avec un piège toujours permanent. Et c'est là qu'on retombe sur le piège de la virilité et de l'empathie, qui sont deux attentes permanentes du public américain. C'est qu'à partir du moment où elle joue la carte de la femme, eh bien n'apparaît plus, et là je vous rejoins Jean-Luc sur la question de la misogynie, qu'une petite chose, incapable de gérer les grands problèmes du monde, un peu naïve, crédule.
Et qui en plus a des quintes de tout.
Et en plus qui a une santé qui est défaillante à côté de quelqu'un qui surjoue la virilité, qui surjoue la force. Et d'ailleurs, je pensais à ce que vous disiez sur la taille de son pénis. Vous avez peut-être vu fleurir dans quelques villes américaines des statues de Donald Trump,
absolument,
d'opposant évidemment, et qu'il le présentait nu avec un micro-pénis. Et je pense que c'est la meilleure attaque possible contre Donald Trump, c'est de l'attaquer là où ça fait mal, ou en tout cas là où il pose les termes du débat.
On est loin du débat d'idées.
Ce qui est très intéressant aussi, c'est que on oppose à Hillary Clinton des critères de jugement qui sont des critères classiques, qui sont ceux en fait que l'on oppose à tout homme ou toute femme politique, alors que Donald Trump, lui, échappe à ces critères. Ce qui veut dire que la critique d'Hillary est beaucoup plus féroce, et notamment de la part des journalistes qui l'interrogent dans les émissions télévisées. On verra ce qui va se passer dans la nuit de lundi à mardi. Cette critique est beaucoup plus féroce et les critères beaucoup plus aiguisés, puisqu'ils sont traditionnels et que tout le monde les manie. Alors que Donald Trump, lui, il a piétiné tout ça, il a fracassé tout ça.
On n'en attend rien de Donald Trump, on s'est tellement habitué à tout. Je suis frappé par ça, parce que j'étais correspondant 10 ans là-bas, et j'ai une profonde admiration pour la presse américaine, la façon de travailler, le comportement, une espèce d'éthique qui a flotté plus ou moins au cours des dernières années, mais tout de même, il y a un savoir-faire, j'allais dire une technicité journalistique. C'était très frappant l'espèce de débat à dos renversé qu'on a vu à la télé récemment, quand les deux candidats se sont fait briefer sur les problèmes de défense,
avec les
États-Unis.
Anciens combattants.
Oui. Donc, M. Trump est passé au travers des gouttes, il a fait son petit speech. On sait qu'il est ignorant, c'est pas grave, on est habitué. La Belgique est une jolie petite ville, quelque part en Europe. Tout le monde s'en fiche. Et c'était Hillary qui était sur le grill. Elle est la personne la plus expérimentée du monde en matière géostratégique, en matière de politique étrangère, en matière politique. C'est pas moi qui le dis, c'est Obama. Il dit, cette femme, elle est la plus qualifiée, elle est plus qualifiée que moi, elle est plus qualifiée que son mari,
oui,
Bill Clinton.
C'est
la femme la plus qualifiée du monde, la personne la plus qualifiée du monde. L'attitude du journaliste qui menait ce débat, on ne va pas appeler ça un débat, mais enfin cette rencontre, était d'une agressivité, j'ai trouvé d'une hostilité incroyable, enfin inexplicable. Mais on ne prête qu'aux riches au fond, donc on attend beaucoup
mais
de cette femme.
Mais encore une fois, parce que ce journaliste, c'est Matt Lauer en l'occurrence, il pratique
bon
des critères habituels et bon journaliste.
Ouais.
Trump les désarçonne tous.
J'ai l'impression que les gens ont abandonné, enfin c'est au fil des jours, regardez son speech d'acceptation, d'investiture à Cleveland, à la convention républicaine. Ça dure 116 minutes, quoi. Il y a Castro qui parle aussi longtemps, et alors là, avec l'emphase, etc. Je crois qu'il y a 26 erreurs, enfin, j'ai appelé ça les erreurs par gentillesse, il y a 26 mensonges, ou au moins contre-vérités. Je lis le New York Times le lendemain, le Boston Globe, le Washington Post. On signale que, bon, comme d'habitude, il a un peu tripatouillé les chiffres et les faits, la réalité. Mais pas sur le fond. C'est-à-dire, on a laissé tomber vraiment cette partie de lui. Ça fait partie du personnage.
Et encore, vous citez la presse de la côte Est, la presse du système, comme disent les partisans de Trump et Trump lui-même, qui évidemment accuse cette même presse de lui être férocement hostile, ce qui est vrai d'ailleurs.
Ça ne me rappelle pas quelqu'un en France.
Oh, il y a beaucoup de choses qui peuvent...
En ce moment, oui, certes. Mais la malchance, justement, la malchance et la chance aussi d'Hillary,
c'est
d'être,
oui,
totalement opposée à Donald Trump. Elle est aussi articulée, intelligente, expérimentée, précise, personnelle, que lui a un ego débridé et d'une force espèce d'archaïque où tout est...
Donc les Américains sont fous, madame.
Ce qui est compliqué pour Hillary Clinton, c'est qu'elle va être prise dans cet antagonisme qui est créé et activé par Donald Trump, volontairement ou pas, je ne sais pas.
Néanmoins, pour en rester au personnage, au caractère, en franglais, d'Hillary Clinton, elle est aussi cette femme qui se dérobe depuis 25 ans à une énonciation simple des faits, d'une forme de vérité, même si c'est un mot difficile à manier. Et Jean-Luc Hesse, d'où vient cette espèce d'instinct de toujours biaiser par rapport à la vérité?
Alors, Christine, on c'est a bien ce qu'on lui reproche. Été exposés, ou par nos métiers ou nos fonctions, à un moment de crise, à l'hostilité générale, sans qu'on puisse se défendre. Et ça apporte une notion d'enfermement. Je parle devant une spécialiste, donc je fais attention un petit peu à ce que je dis. Et on ne devient pas parano, mais on devient un peu là, des attaques. Et puis surtout, on pense que, vu le système qui s'est aggravé, puisque maintenant, il y a 57 millions de journalistes au moins aux États-Unis grâce à Internet, ça ne va jamais s'arrêter, on ne va jamais pouvoir se défendre. Je crois qu'il y a un moment d'épuisement mental un peu où on se dit, regardez toutes les controverses qui ont touché les Clinton. Je ne parle pas des controverses, de l'attitude de Bill Clinton dans sa vie matrimoniale, ça ne me regarde pas, puis c'est comme ça. Mais Whitewater,
ça a beaucoup regardé les Américains.
Oui, mais Whitewater, mais elle n'a jamais menti sur ces affaires-là, elle. Jamais.
Non, mais elle a toujours dit que c'est un complot d'extrême droite.
Oui, elle a dit que Bill était trop empathique et que c'était lié à sa mauvaise éducation. Mais revenons à ce qui a fait scandale, la mort de Vince Foster, Whitewater, le Travelgate, des choses comme ça. Jamais, jamais on a pu conclure quoi que ce soit sur la malhonnêteté de Hillary Clinton ou de Bill Clinton. Il y a une enquête qui a coûté 70 millions de dollars sur Whitewater, qui était supposée être une espèce de magouille des Clinton. Ils ont perdu
magouille
de l'argent sur un terrain
immobilier.
Donc, bref, quand on regarde tout ça, ça ne tient pas la route. Mais ça doit forger une espèce de carapace qui peut s'avérer négative, qui fait qu'on ne veut plus s'expliquer.
Et chez elle, c'est vrai que ça a atteint
une façon
un niveau
d'être,
obsessionnel.
Méfiance.
Obsessionnel. Thomas Negaroff, on dit volontiers, on le ressent d'ailleurs tous les jours, que l'émotion est maintenant... On est entré dans une époque post-vérité, les faits n'ont plus aucune importance. Donald Trump, encore une fois, est l'exemple même de cette mutation du discours dans le débat public. Néanmoins, l'émotion dans le cheptel politique américain, elle a toujours existé. Et à un niveau extrêmement exotique par moment.
Oui, je crois que Jean-Luc Hesse demandait si les Américains étaient fous. Je crois que c'est un peuple très sentimental et émotif. On le voit, la puissance de la sphère culturelle. Et je trouve qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais pour être plus sérieux deux secondes sur la question de l'émotion que doit susciter un candidat, je pense que... On peut remonter plutôt au début du XXe siècle avec Theodore Roosevelt, où il y a une vraie rupture. Theodore Roosevelt est le premier à saisir un truc que Trump d'ailleurs saisit aujourd'hui, qui est une espèce de demande tout d'un coup, de nostalgie d'une Amérique qui a disparu, et il arrive à saisir ce désir aussi de testostérone de la part d'une Amérique qui est en train de dire adieu.
Enfin, c'était un personnage flamboyant, moustachu, en bottes, héros de la guerre de Cuba.
Oui, mais totalement construit. C'est-à-dire que c'est une figure construite. Il va à Cuba, bien sûr, mais il est suivi par des journalistes en permanence. C'est l'époque de la presse grand public de Hearst, etc. Il faut montrer qui on est, et il faut donner aux Américains entretient l'illusion que celui qui est en face de vous, il vous donne ce shot de testostérone qui est en train de disparaître après la fin de la conquête de la frontière. En fait, il y a une image très nostalgique. Le slogan de Trump, il est aussi basé sur la nostalgie. La nostalgie, c'est un fort moyen de jouer sur la corde émotive. Il y a quelque chose de c'était mieux avant. Et Theodore Roosevelt est le premier à le saisir aussi fortement. Il en fait vraiment un outil de conquête du pouvoir. Il s'adresse régulièrement aux Américains, ce que le politologue américain Sam Carnell a appelé le « going public ». Ça, c'est lui qui l'a inventé, le « belly pulpit ». Il parle directement aux Américains, il parle à leurs tripes.
Et donc là, on est dans les années...
Entre 1901 et 1908, il leur parle, et après il va tenter de revenir. Voilà, il se montre en permanence comme étant capable d'aller chasser le grizzly, chasser l'ours, etc.
L'expression voilà. Teddy Bear.
Voilà, c'est lui.
C'est
parce qu'il aurait sauvé un petit, voilà, parce qu'il a, il a, il a sauvé un petit ourson qui a pas tué sa mère. Donc ça a commencé à ce moment-là. Et puis, je crois qu'avec l'image, avec la télévision, arrive une autre dimension, un peu plus forte encore, qui est à côté de celle de la virilité qu'on continue à mon avis à exalter comme une valeur très forte et qui est très visible, une valeur, je crois, d'empathie, de compassion qu'on doit voir à l'image. Et c'est là vraiment dans les années 50-60 que ça va commencer à s'imposer avec des personnalités comme Eisenhower par exemple, et puis ensuite les présidents d'après. On est vraiment sur ces deux pieds là, je reviens vraiment là-dessus, la virilité et l'empathie qui ont été scandées par une évolution médiatique progressivement, la photographie, la presse populaire et la télévision ensuite.
Et c'est là évidemment où il arrive en matière d'empathie et surtout comparé à Bill Clinton. Ah oui. Obama, c'est un peu différent parce que c'est très cérébral, mais il y a cette grâce physique qu'Hillary n'a pas, c'est ouais. Fred Astaire. Ouais. Et donc Hillary ne remplit pas, en fait, à cause de son genre d'abord, mais aussi à cause de son tempérament, ces deux constantes.
Oui, en revanche, pour revenir un instant sur le côté narcissique d'Hillary Clinton, elle a certainement en elle, parce que j'imagine que une telle obsession du pouvoir, elle doit être nourrie par quand même une sorte de narcissisme assez fort. Mais en même temps, c'est une femme qui a été capable de changer plusieurs fois dans sa carrière politique. Jean-Luc Hesse en parle dans son livre aussi, mais changer de nom parce que ça nuit à la carrière de son mari, rentrer dans le rang à partir de 94.
C'est sûrement lié aussi à son identité propre à laquelle elle tient d'éducation. Ouais. Quoi. C'est une femme qui est l'égale des hommes.
Et puis modéré, et surtout, vraiment, je ne sais pas si... Alors là, je parle à la psy en face de moi, je ne sais pas si c'est un trait de narcissisme ou de manque de narcissisme d'être capable de s'adapter et de changer profondément sur ce qu'on est pour aboutir finalement à ses fins, pour arriver à ses fins.
Mais a-t-elle tellement changé? Ce n'est pas sûr, je crois que...
Je ne sais pas si elle a changé fondamentalement, mais elle a été capable de le faire. Elle a été capable en tout cas de...
Oui, mais on appelle ça l'évolution des hommes ou des femmes. Je veux dire, je ne suis pas pareil que quand j'avais 8 ans. Oui. Et j'ai évolué parce que je me suis adapté. Je crois que c'est une des définitions de l'intelligence d'ailleurs.
Mais quand en 92, vous dites, je ne suis pas là pour faire des gâteaux à mon mari. Et en 95, vous dites, mon rôle, c'est de faire couler un bain à mon mari pour l'écouter quand il rentre du travail.
Nécessité de la campagne, on va dire.
Non, et puis surtout, faillite de la réforme de santé. Voilà, enfin, il y a eu quelques...
Non, mais je veux dire, je ne sais pas si Trump, par exemple, serait capable de tels renoncements, y compris à des fins politiques.
Oui,
non.
Mais enfin, moi, j'ai toujours constaté cette évolution que je trouve, moi, magnifique d'Hillary Clinton. Et le mot n'est pas trop fort parce qu'on peut s'interroger quand on aspire à gouverner un pays comme les États-Unis, c'est-à-dire à incarner quand même l'avenir du monde d'une certaine façon, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Regarder comment les choses évoluent, comment une société évolue, c'est tout de même le minimum qu'on peut demander à un aspirant gouvernant. Prenez le cas de l'interruption volontaire de grossesse. Pensez à la vie personnelle de cette femme qui a eu beaucoup de mal à avoir un enfant, qui est quelqu'un d'assez religieux, c'est une méthodiste vraiment qui a une foi assez fervente, Hillary Clinton. Elle a eu beaucoup de mal à avoir un enfant. Elle n'est pas... Comment dire, en empathie immédiatement avec l'idée que si on est enceinte et on va peut-être choisir de ne pas avoir un enfant. Elle s'est battue pour faire abroger les lois anti-IVG 4 jours après l'arrivée à la Maison-Blanche de Bill Clinton. Ça a coûté cher politiquement d'ailleurs à la famille Clinton parce que tout le monde n'était pas vraiment d'accord sur un dossier qui n'est toujours pas fermé aujourd'hui. Mais elle a senti que c'était ça, la société telle qu'elle évolue. Et moi, je suis, encore une fois, c'est admiratif de cette évolution.
On ne parlait pas de la même chose. Hein. Je parlais vraiment de son reniement, de sa personnalité.
On y reviendra, bien sûr. Mais je voudrais que nous écoutions notre ami Roger Cohen. Roger, merci mille fois d'être avec nous par téléphone.
Christine.
Vous êtes, et c'est un compliment, j'espère, le plus européen des éditorialistes du New York Times. Et vous avez signé un papier, entre autres.
J'espère que ce soit un compliment.
Voilà. Et vous avez eu la bonne idée d'aller dans un patelin du Kentucky qui s'appelle Paris. et où vous avez essayé de comprendre le comportement des électeurs dans cette campagne. Alors évidemment, chaque État américain a sa propre physionomie politique. Le Kentucky, oui, c'est le charbon est en crise, etc. Mais quelle impression dominante avez-vous retirée du rapport qui existe entre les militants de Trump d'un côté et les militants d'Hillary de l'autre? Est-ce que ce rapport est de même nature, ou est-ce que, s'agissant de Trump, c'est un phénomène nouveau?
Bah, je pense, Christine, que les militants de Trump sont peut-être plus motivés, plus enthousiasmés. Il y a un problème évident avec Hillary Clinton, c'est le fait que la famille Clinton est dans la Maison Blanche ou autour de la Maison Blanche depuis un quart de siècle maintenant. Donc, même si Hillary Clinton est une femme et donc représente un changement dans ce sens radical, elle représente évidemment l'établissement. Et c'est pour ça, je crois, qu'on a vu plus d'enthousiasme pour Bernie Sanders qu'on en a vu pour Hillary Clinton. Et Donald Trump, j'en avais marre d'être à New York à des dîners et tout le monde faisant une espèce de compétition pour se moquer mieux de Donald Trump. Le fait est qu'il a le soutien de millions d'Américains. Et c'est pour ça que j'avais décidé de faire un voyage en Kentucky. Et il y a des problèmes particuliers avec le charbon, mais il y a ce phénomène qu'on a aussi en Europe des gens qui en ont marre, qui ont le sens qu'ils sont joués par le système, ils savent pas trop comment. La globalisation, c'est la perte de postes de travail, et ils veulent le changement. Eh bien, Donald Trump, il ment, et ils le savent. Il est dangereux, ils le savent. Deux ou trois avec lesquels j'ai parlé, ils m'ont dit, peut-être qu'il nous mènera à la guerre, Trump, mais je vote pour lui quand même. Il y avait d'autres qui disaient, même si je ne peux pas voter pour Hillary Clinton, je ne pourrais pas voter pour Trump, parce que c'est trop dangereux. Ces gens, pour dire une chose qui devrait être évidente, mais peut-être ne l'est pas, ils ne sont pas stupides.
Mm-hmm. En particulier, l'une des femmes auxquelles vous avez parlé a dit, effectivement, il ment, mais ça m'est égal, on a besoin de quelqu'un de spectaculaire. Qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, ça avait beaucoup frappé la rédaction ici. Somebody spectacular. Et parce que tant de choses sont, il y a tant de choses dans cette phrase quand on y pense, parce que bah, Trump, évidemment, il vient du monde de la média, enfin il a été présent sur les écrans de télévision des États-Unis et ailleurs depuis très longtemps. Il y a beaucoup de façades, si vous voulez, spectaculaires, et pas grand-chose derrière, peut-être. Mais il a un mouvement derrière lui. Je pense qu'on voit en Grande-Bretagne, comme aux États-Unis, et peut-être en partie aussi en France, que les grands partis traditionnels ne comptent presque plus. En Grande-Bretagne, et les conservateurs et le Parti travailliste sont dans une crise profonde. Ici, Donald Trump a construit un mouvement utilisant le Parti républicain, mais franchement, il n'a pas grand-chose à voir avec le Parti républicain traditionnel. C'est un mouvement de masse auquel les social media sociaux donnent un renforcement très fort. Il y a une espèce de démocratie directe, et la démocratie directe peut être très dangereuse, qui est menée à travers le social media. Enfin, les partis, il me semble, traditionnels, sont aussi adaptés, disons, au monde contemporain, comme les journaux traditionnels. Je veux dire, il y a maintenant une espèce de dialogue direct. Et Trump utilise sa spectacularité, si vous voulez, pour mener ce mouvement.
Une dernière question, Roger, avant de vous libérer. Au niveau du comportement, au niveau du caractère que Donald Trump et Hillary Clinton vont s'efforcer de mettre en avant lundi lors du premier débat télévisé. Qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce que vous allez guetter?
Je vais guetter si il n'y a aucun doute, personne n'a été aussi préparé pour être président comme Hillary Clinton. Elle a tout fait, elle est tout à fait préparée. Elle a un problème, un très grand problème. Les gens ne se fient pas à elle. Et ça, c'est le problème fondamental qu'elle a. Donc, je vais regarder pour essayer de voir si elle réussit à faire prévaloir son expérience et franchement, le fait qu'elle est stable mentalement, et j'en suis pas sûr que ce soit le cas avec Donald Trump, si elle réussit à faire prévaloir tout ça pour mettre finalement Donald Trump mal à l'aise ou en difficulté, parce que je crains que comme il a fait avec les 16 autres candidats qu'il y avait pour la nomination républicaine, il sera beaucoup en attaque contre Hillary sur plusieurs fronts. Il n'écoutera pas, il s'en servira des questions qu'ils lui ont posées pour faire le discours qu'il veut faire. Et il est très important que les modérateurs de ce débat, parce que Donald Trump, il trafique dans les mensonges, il est très, très important, et je guetterai ça aussi, de voir si les modérateurs sont à la hauteur de confronter Trump quand c'est nécessaire. C'est un candidat qui est hors du cadre traditionnel. Il n'est pas dans le cadre traditionnel. On peut discuter s'il est un danger à la République ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est hors du cadre traditionnel. Il ment. Il ment tout le temps. Il montre pas son retour d'impôts. Il a un ego qui dévore tout. Donc, on ne peut pas mener un débat avec lui, je pense, par des moyens, traditionnels. Donc ça aussi, ça sera un aspect très important. Moi, je serais surpris, franchement, si Donald Trump perde ce type de débat de façon marquante.
Eh bien, nous serons tous, évidemment. Évidemment, pour nous, Roger, c'est un peu cruel, parce que ce sera de 3h du matin à 4h30 du matin, mais nous serons, évidemment, suspendus. Merci mille fois d'avoir été avec nous par téléphone. Éric Scholl, patron de Courrier International, notre partenaire, vous avez évidemment, il y a foison de papiers dans la presse internationale et bien sûr dans la presse américaine, sur le tempérament des deux candidats. Qu'est-ce que vous avez choisi?
J'ai retenu un papier qui a été publié au mois de juin par Vie Atlantique, qui a été interrogé un spécialiste en psychologie sur le caractère de Trump. Et c'est pas n'importe quel psychologue. Dan McAdam, c'est un professeur réputé. Il enseigne à la Northwestern University à côté de Chicago. Et surtout, il n'est pas un novice en matière de personnalité politique, puisqu'il a déjà publié un livre, c'était en 2011, un portrait psychologique de George W. Bush. Alors cette fois-ci, pour Vie Atlantique, il s'est glissé dans la tête de Donald Trump. Et voilà ses conclusions. Plus encore que Ronald Reagan, écrit-il, Donald Trump est un acteur, il passe son temps à jouer à Donald Trump, c'est un guerrier, il se bat pour gagner, mais sans jamais savoir pourquoi. Alors selon McAdams, la seule part en fait authentique chez le candidat républicain, ce sont ses colères, des colères qu'il ne simule pas. Au total, explique le professeur, les traits basiques de sa personnalité laissent entrevoir une présidence qui pourrait être hautement inflammable. Mais c'est à peu près tout ce qu'on peut deviner finalement d'un Donald Trump à la Maison-Blanche, car Dan McAdams le reconnaît, je le cite, « L'histoire de Donald Trump nous dit très peu de choses sur le type de président qu'il serait, quelle serait sa philosophie politique, quelles seraient ses priorités pour la nation et le monde. » En fait, s'il n'a pas grand-chose à voir avec ses prédécesseurs, Barack Obama ou George W. Bush, le candidat républicain présente des similitudes avec un ancien occupant de la Maison-Blanche, et là on remonte au début du 19e siècle, Andrew Jackson, qui exerça deux mandats de 1800 1829 à 1837.
Oui, on l'a oublié, celui-là.
Et c'était une personnalité très clivante. On parlait tout à l'heure de frontières, c'est lui qui s'était battu sur le thème de frontières. Il était lui aussi un outsider, un homme détesté par l'establishment de Washington, un populiste en colère, réputé pour sa dureté et son autoritarisme, une sorte en fait de Donald Trump avant l'heure.
Et la comparaison entre Donald Trump et Hillary Clinton, dont on a compris évidemment qu'elle est, pour toutes sortes de raisons, aux antipodes personnage de Trump.
En fait, il y a un psychothérapeute californien, John Tsilim Paris, qui a été interviewé par le Huffington Post et qui explique qu'il y a quand même des traits communs. Selon lui, Trump et Clinton, comme d'ailleurs tous les anciens candidats à la Maison-Blanche, sont animés par une forte ambition et des égos démesurés. S'ajoute à cela des ressorts plus personnels. Tous les deux ont quelque chose à prouver au reste du monde, explique l'auteur. Concernant Hillary Clinton, il s'agit sans doute de sa volonté de revanche après sa défaite il y a 8 ans face à Obama. Mais il y a aussi, derrière sa quête de pouvoir, une façon de répondre inconsciemment à son père, un père autoritaire, Jean Lucas en parlait tout à l'heure, qui était partisan de la perfection, de la discipline et du contrôle. Quant à Donald Trump, eh bien lui, il s'acharne, et là je cite l'auteur, il s'acharne à montrer que ses ennemis ont tort et les humilie les uns après les autres. Toutefois, poursuit l'auteur, la vraie différence entre les deux candidats réside dans la nature, le tempérament et l'expérience. Et clairement, poursuit-il, Clinton a l'expérience politique, elle a un tempérament présidentiel, et même si son talon d'Achille est d'être détestable, eh bien sa nature à la fois plus sobre et plus équilibrée rendra notre pays plus sûr et plus crédible auprès de nos alliés.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine O'Krent.
Laurence de Rosen, dans le jugement toujours très sévère qui est porté sur Hillary Clinton, l'utilisation de d'un adjectif comme détestable, par exemple, est-ce qu'on ne méconnaît pas une dimension qui est très américaine et je crois très importante, et Jean Lucas le souligne dans son livre, dans le personnage d'Hillary, qui est cette conviction qu'elle a raison. Et elle a raison parce que de religion méthodiste, selon John Locke, le pasteur qui a inventé cette branche du protestantisme à la fin du 19e siècle, on est sur Terre pour rendre à la société ce qu'elle nous a apporté, mais pour l'améliorer. Donc c'est un protestantisme optimiste. Et au fond, on a toujours l'impression, tout au long du parcours d'Hillary Clinton, qu'elle dit « Mais moi, je ne dois pas vraiment rendre de compte, puisque mon propos est le bon, mon objectif est louable, je n'ai pas de basse pensée, et donc je n'ai pas à m'en expliquer. » Est-ce que pour, encore une fois, la psychanalyste que vous êtes, c'est une interprétation simpliste?
C'est pas une interprétation simpliste, mais là, on peut voir un caractère, enfin des traits de caractère narcissique, dans cette façon de ne pas donner l'espace aux autres et de persuader qu'on est non pas supérieur, mais en tout cas qu'on a raison. Mais pour revenir à Hillary Clinton, je crois que par rapport, et pour rester dans le mythe de Narcisse, elle représente un principe de réalité. Alors, quel est tort ou pas, par rapport, et elle y tient. Les Américains n'ont pas tellement envie de voir la réalité comme elle est. Donc, ils versent dans un Donald Trump qui est
mais Trump
spectaculaire.
Qui noircit cette réalité.
Qui noircit, mais surtout qui la rend, qui noircit celle de Hillary Clinton, mais qui rend sa réalité comme un spectacle. Et comme une illusion, comme un rêve, comme un fantasme. Et ça, les Américains sont plus préfèrent rêver sans savoir où ils vont plutôt qu'avoir un principe de réalité. Narcisse, il refuse la réalité. Il en meurt d'ailleurs.
Mais en même temps, Thomas Negaroff, le rêve américain de Trump, c'est un cauchemar. Il passe son temps à dire « l'Amérique n'existe plus, le pays est foutu, tout va mal, il y a le crime partout », ce qu'il a dit des Afro-Américains est juste sidérant.
Mais sauf que ça lui permet d'offrir un avenir radieux. C'est exactement la rhétorique d'un Ronald Reagan. Cette rhétorique de la peur, elle n'est pas neuve aux États-Unis. Hein. Très souvent, les républicains l'utilisent, notamment quand ils sont à des périodes où ils veulent remplacer un démocrate. Il y a toujours l'idée que les démocrates ont construit une Amérique qui n'est pas fidèle à ses valeurs, qui est en train de se dévoyer, qui est sur la voie évidente du déclin, et eux offrent, mais vous savez, ça me rappelle un peu le débat politique en France aujourd'hui. Regardez l'identité heureuse défendue par l'un, qui serait plutôt dans une figure un peu clintonienne, qui serait Juppé aujourd'hui, et puis un Nicolas Sarkozy qui présente une France apocalyptique.
Moi qui espérais qu'on évite de parler des primaires.
Mais eux n'arrêtent pas d'en parler.
Dans cette émission.
Mais c'est pas moi qui en parle, c'est que eux ne cessent de parler de Trumpisation de la campagne française, etc. C'est que c'est eux qui font le travail, donc moi je fais que analyser. Et il y a cette idée-là, je trouve. Sur le caractère que vous évoquiez d'Hillary Clinton, il y a une chose qui me me semble intéressante. C'est vrai que c'est quelqu'un qui reste droit dans ses bottes, excusez-moi encore pour l'allusion, et qui décidément et qui en tout cas est persuadé d'avoir raison contre le reste du monde, au point que ça peut lui coûter des échecs politiques. On parlait de la réforme de santé en 94, elle voulait 100% et pas 94% des Américains couverts, au point de s'énerver quand son mari avait tenté d'essayer de trouver une solution. C'était 100% ou rien.
C'était une maladresse de débutante. Je veux dire, c'était une maladresse d'arrogance.
C'est aussi un caractère.
Elle connaissait pas le fonctionnement.
Non, mais surtout, elle n'avait pas de mandat.
Non, tout à fait. Immense erreur. Mais surtout, l'Arkansas, c'est à gouverner, c'est ce que c'est. Puis après, quand on arrive à Washington, il y a un congrès. Alors, il y a un congrès. Le seul pouvoir du président des États-Unis, c'est de déclarer la guerre. C'est le seul pouvoir qu'il ait. Ça va pas durer longtemps. En plus, il y aura un contrôle parlementaire extrêmement strict, enfin vivace. Mais pour le reste, tout est compromis. Donc, on peut pas arriver qu'on soit first lady, président ou le chien de la maison. On peut pas arriver avec son agenda et puis le fixer dans le secret, d'ailleurs. Elle voulait pas que les noms des gens qui étaient consultés, du comité qu'elle avait organisé, soient connus, soient rendus publics.
Mais on revient donc à cette obsession du secret, à cette obsession de la protection de sa vie personnelle, qui explique l'affaire des courriers électroniques, qui évidemment, vu d'ici, on n'a pas compris. On s'est dit, mais enfin, c'est une plaisanterie. On ne voit pas que cela continue. Cette affaire l'a marqué au fer rouge.
Colin Powell avait fait la même erreur avec une échelle moins grande, mais il y avait 10 000 emails qui se baladaient.
Ouais, avec une différence, c'est
c'était des emails privés.
Oui, et que là, c'est un serveur personnel. C'est-à-dire qu'elle avait une adresse .clinton. C'est-à-dire que c'est même pas une adresse...
Un serveur personnel dans la cave de sa maison de l'État de New York, installé par un informaticien de la Fondation Clinton.
Oui, donc ça faisait quand même beaucoup. Et qui a eu des tentatives de hacking réguliers sur cette boîte mail. C'est quand même très grave. Et surtout, vous avez raison, dans le détail, les Américains comprennent pas comme nous cette histoire, elle est très technique et très pointue. En revanche, c'est ce que ça révèle, encore une fois, du rapport d'Hillary Clinton et de son mari à la réalité, à la vérité, que les Clinton se sentent au-dessus des lois. Il y a quand même cette petite musique qu'on entend depuis toujours. Et peut-être vous adorez Hillary Clinton, mais...
Non, mais c'est pas vraiment la question.
Ça repose aussi quand même sur des éléments, vrais. Quoi.
On peut pas dire qu'ils se sentent au-dessus des lois après tout ce qu'ils ont passé comme épreuve, justement, face à des comités judiciaires, des comités théodules. Et ça a été une véritable persécution de l'extrême droite. Donc, les effets de la persécution, ça peut ajouter un peu de paranoïa et un peu de théorie du complot. Et en fait, moi, je pense qu'elle n'a pas tout à fait tort en ce qui concerne cette théorie du complot, parce que les Clinton ont été les plus dangereux politiciens pour le Parti démocrate et pour cette nouvelle droite qui s'installait...
En même temps, Jean-Luc Hesse, c'était bien le baby-boom. Couple Clinton était les premiers représentants de cette génération.
Oui, tout à fait.
Mais en même temps, c'est quand même incroyable. Bill est élu gouverneur de l'Arkansas. Elle conserve un poste d'avocate au sein du cabinet Rose, qui est le principal cabinet d'avocats.
Et elle garde son nom de jeune fille.
Avec des possibilités de conflit d'intérêts permanents. Pareil avec la Fondation Clinton aujourd'hui. C'est quand même des gens qui, à la fois... semble pris d'assaut par le monde, mais qui, en même temps, donne tellement aussi de prise à ces attaques qu'on en est même étonné.
Sans, encore une fois, que rien n'ait jamais été prouvé termes de malversation. Et c'est vrai aussi de la Fondation Clinton. Alors qu'il est avéré, et encore une fois, ça glisse sur lui comme l'eau sur les plumes d'un canard, que Donald Trump a utilisé de l'argent de sa propre fondation pour payer des frais... personnel. Ouais. Donc,
mais ce problème de confiance, il est quand même fondamental aux États-Unis, parce que les Américains ont peur de faire confiance dans toute démocratie, mais avec Hillary, on pourrait quand même plus se faire confiance malgré tous ces problèmes, alors qu'ils font complètement confiance, pour beaucoup d'entre eux, à Donald Trump.
Mais le mal est fait, de toute façon. Enfin, quand la poussière va retomber sur le champ de bataille, le 8 novembre, il y aura un vainqueur et un vaincu. Et donc, chacun.
Vous parlez comme Donald Trump. Il ne voit le monde qu'entre les vainqueurs, les losers, les winners. Vous voyez, vous êtes contaminé. Déjà, le narcissisme est arrivé.
Je n'achète pas le. Mais admettons. Mais ce que je veux dire, c'est que le mal est fait. Au sein de la société américaine, l'effet Trump est tel que même si les illusions déversées par Trump ne se concrétisent pas dans les urnes, il y a quelque chose qui ne va pas aux États-Unis. Il y a quelque chose de profondément en crise aux États-Unis. 70% des gens. Je pense que si on faisait le même sondage en France, on serait aussi surpris, mais 70% des gens n'ont pas confiance dans le fonctionnement de la politique. C'est même pas seulement ceux qui interprètent la politique, enfin les figures politiques, mais c'est le fonctionnement. Le fonctionnement, pour eux, c'est une faillite. Et ça, c'est extrêmement grave dans un moment comme ça. On parlait de globalisation, Roger Cohen. Ça traumatise les gens.
Mais s'y ajoute, Thomas Negaroff, la mutation technologique de la communication. Il est évident que les réseaux sociaux, Twitter en particulier, Donald Trump en a compris. C'est un génie du marketing. C'est pas le grand homme d'affaires qu'il prétend être, mais c'est un génie du marketing. Il a compris l'usage et la caisse de résonance de ces réseaux sociaux où les faits n'ont plus aucune importance et où les gens s'informent. Je crois que Facebook est devenu le premier média aux États-Unis. Les gens s'informent en silo, c'est-à-dire qu'ils s'informent auprès de gens qui sont d'accord avec eux, puisque c'est tribal.
Oui, et Donald Trump, pendant des années, a joué un rôle de patron qui dit qu'il faut virer, qu'il faut garder. Celui qui dit
dans son émission The Apprentice, qui n'a pas du tout marché en France d'ailleurs.
Oui, mais qui a été pendant des années pour les Américains, celui qui dit ce qui est bien, celui qui dit le vrai, celui qui dit le juste en fait. Et donc ça a marqué forcément.
Et qui donne un job ou pas en fonction de la...
Mais en même temps, et donc il a une logique de gestion du monde qui est très comptable. Hein. En gros, les pays de l'OTAN, on les soutient, on les aide, mais donc ils doivent payer les bases américaines. Il y a des clandestins qui rentrent, il faut faire un mur. On est dans un rapport presque appelé le 1 ou le 2 de télé-réalité. Mais en même temps, il y a une vraie construction aussi historique. Reagan a été un produit de la culture hollywoodienne. Je crois que Barack Obama, même si on l'adore peut-être tous autour de cette table, a été aussi le produit davantage d'une culture populaire que d'une culture politique. Et là, on est sur
un
troisième temps. Oui, c'est vrai, mais regardez sa campagne. Regardez quand il slam chez Jimmy Fallon. Il joue parfaitement de ces codes-là. Et puis, le troisième temps, c'est Donald Trump. On est, et à chaque fois, il n'y a qu'une dégradation, je trouve, on est sur un produit de la culture de la télé-réalité.
Laurence de Rosen, je rappelle que vous êtes psychanalyste, ce rapport direct que les réseaux sociaux offrent à tout un chacun, et surtout aux jeunes, mais pas seulement aux jeunes, en quoi est-ce que cela modifie le regard que un citoyen, quelqu'un qui se prépare à aller voter, porte sur tel ou tel candidat? Est-ce que, encore une fois, cette irruption des réseaux sociaux, ce déversement d'émotions dans les réseaux sociaux, le tout et n'importe quoi, parce qu'il y a tout et n'importe quoi, en quoi est-ce que cela modifie le rapport entre le citoyen et l'homme ou la femme politique?
Parce que les réseaux sociaux sont devenus un miroir où tout se déverse, notamment une énergie incontrôlée, incontrôlable, où, en plus totalement anonyme, où il n'y a pas d'engagement. Et c'est une plateforme, pour Donald Trump en particulier, formidable. Il y a « sky is the limit », comme ils disent. Enfin, il n'y a plus de limite et il n'y a pas de relation personnelle. Donc, ils utilisent ces réseaux sociaux comme un miroir. Enfin, ils se cherchent, ils vont d'un point à l'autre sans savoir où ils vont. Et Donald Trump ne doit pas savoir très bien où il va non plus. Mais vous l'avez dit dans votre livre, il est le roi, il va du producteur au consommateur directement. Donc il n'y a pas d'intermédiaire. Et les gens sont immédiatement pris par cette énergie qui est enveloppante, qui est absorbante et qui leur fait perdre toute distance. Le narcissique n'a aucune distance par rapport à lui. Et là, Donald Trump est assez effrayant dans la mesure où il réverbère une force très 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 archaïque en réalité, où la colère, où la peur, tout ça sont des émotions assez indifférenciées et les gens n'arrivent pas à se différencier dans ces réseaux parce qu'il n'y a pas d'humain,
Mais en même temps, Jean-Luc Hesse, le fait que, encore une fois, Hillary Clinton fonctionne selon les critères traditionnels et les juger selon ces critères avec une sévérité d'autant plus acérée qu'encore une fois, elle est dans le paysage depuis au moins 25 ans. Donc elle incarne le système que beaucoup de gens, aux États-Unis et pas seulement aux États-Unis, veulent renverser. Donc jusqu'à quel point est-elle elle-même prisonnière en fait de son propre parcours, et comment peut-elle sur les réseaux sociaux, parce qu'évidemment le camp démocrate aussi essaye de les utiliser, comment peut-elle moderniser en quelque sorte son personnage?
Mais Christine O'Krent, si je pouvais répondre à la question, je lui enverrais un texto immédiatement. Et non, mais c'est un piège qui ça va se terminer très proches les uns des autres, cette affaire, au fond, parce que vous décrivez parfaitement le piège. Mais le piège, ça s'appelle l'expérience. Alors comment peut-on lutter contre ça? C'est-à-dire, comment peut-on lutter contre l'idée que, voilà, je suis la femme expérimentée qu'il vous faut, la moins dangereuse, je suis pas un faucon, je suis pas une voleuse, je suis pas une assassine, on peut me faire confiance, ah, vous me faites pas confiance, mais bon, tout de même, regardez en face, il y a aucune expérience, il y a rien, il y a quand même des questions énormes qui se posent, des questions dangereuses, donc voilà, comment peut-on lutter contre ce piège? Roger Cohen a c'est un très très fin observateur de la politique américaine, et c'est un homme de bien, je veux dire, c'est un humaniste, Roger Cohen. Et quand je l'entends dire, je vais regarder, je vais guetter ça dans le débat, il a raison. C'est-à-dire que si elle arrive à montrer que l'expérience, ça compte dans la vie d'une grande nation, ben, l'intelligence n'aurait peut-être pas fait un pas de géant, mais les États-Unis auront gagné quand même un petit ticket de sortie.
Oui, mais Thomas Negaroff.
Je suis tout à fait d'accord avec ça. Le seul problème pour Hillary Clinton, c'est que quand on construit une campagne sur la responsabilité et la confiance, et que manifestement on a un problème dans l'image qu'on donne en termes de confiance et de responsabilité, elle était aux affaires pendant Benghazi, elle a menti sur sa pneumonie, elle a menti sur les emails.
Non, elle n'a pas menti sur sa pneumonie, elle a attendu deux jours. Par omission. Non, non, mais ne faisons pas du Trump les faits.
Bah, donc mensonge les faits, par omission, alors d'accord.
Oui, enfin, très mauvaise communication.
Elle a jugé que c'est en disant, sa sphère intime de rester 90 minutes chez sa fille.
Sauf que,
on l'a passé au détecteur.
Non, mais Thomas a raison, c'était une faute.
Et surtout, Non, mais d'autant plus une faute que lorsqu'on se présente aux Américains comme le pôle de stabilité et de sécurité face à un candidat éminemment dangereux. Quand on dit aux Américains, je suis peut-être pas excitante, mais vous avez la proie, vous n'allez pas lâcher la proie pour l'ombre. Mais quand la proie devient aussi ombrageuse que l'ombre, et que l'ombre est excitante, bah les Américains ils vont vers l'ombre excitante. Et je crois qu'on en est là aujourd'hui. C'est que
ça me rappelle un débat.
Jean-Luc,
il y avait un débat Hillary Clinton-Obama, je crois que c'était en 2008, ouais. Et on lui faisait déjà ce reproche, mais vous n'êtes pas très excitante. Ouais. Et elle avait très mal vécu. Je veux dire, je comprends, c'est insultant. Ouais.
Non, mais c'est là où Obama avait répondu, mais you'd rather nice after all. Vous êtes plutôt sympa finalement.
Il était démoniaque en faisant ça, avec un sourire formidable. Mais bon, oui, enfin. Le bon Dieu a mis la tête plus haut que le reste, donc il va bien falloir voter Hillary Clinton.
Mais nous, on votera pas. Hein,
non, qu'il non, arrive. Nous, on ne votera pas.
Mais n'empêche quel bilan terrible pour Barack Obama. D'ailleurs, on le voit, il s'impose, il dit même, je le prendrai personnellement si vous élisez.
C'est ce qu'il a dit dans une église noire l'autre jour.
Ça sera à mettre à son bilan, l'élection de Donald Trump. C'est la même Amérique. Il n'y a pas deux Amériques. S'il y a une majorité d'Américains qui a voté pour lui en 2008 et en 2012, et s'il y a une majorité d'Américains qui votent pour Donald Trump, alors que ça a été son ennemi personnel à partir de 2011, il le mettra à son débit.
Il y a quand même un facteur, qu'il faut rappeler, c'est qu'il est rarissime dans l'histoire politique américaine, et vous le savez comme moi, que le même parti politique fasse trois mandats de suite. Donc, il y a eu les deux mandats de Reagan et le père Bush, mais là, ce serait un troisième mandat démocrate si Hillary Clinton...
Et pour l'anecdote, sur le Bush qui était très en retard sur Dukakis au début des conventions, au début du mois d'août, et les républicains ont commencé à l'attaquer sur la santé et la santé mentale. Reagan avait dit « Je ne parlerai pas d'un invalide », ça avait fait une histoire incroyable, et on avait commencé à attaquer Dukakis sur sa capacité à incarner la fonction. On retrouve un peu ça aujourd'hui, je trouve.
Et sur la libération d'un tueur.
Mais pour lundi, la difficulté...
Laurence de Rosen.
La difficulté de Hillary Clinton lundi va devoir être attaquée. Il va falloir qu'elle sorte d'elle-même et pas être contaminée par cette espèce de personne qui va le broyer. Quoi. Il va attaquer,
Mais elle est considérée comme très bonne en débat.
Oui, mais elle a un peu dérapé ces temps-ci sur ses attaques vis-à-vis de Donald. En citant le panier pitoyable. Enfin,
elle a dérapage.
La moitié des électeurs de Trump sont pitoyables.
Oui, et là aussi, ce n'était pas dans un meeting. C'est là où on voit quand même que les réseaux sociaux, encore une fois, bouleversent l'exercice. C'était, je crois, une session de richissimes donateurs à New York, où elle a dit ce que tous ces gens pensent et ce qu'elle pense elle-même.
On parlait des médias.
Et aussitôt, il y a eu tweet.
Elle fait de la politique comme on en faisait il y a 20 ans.
Voilà.
Elle pense que ça ne va pas se voir, qu'elle a une pneumonie.
Et que ça ne va
pas se dire. Elle pense que Colin Powell avait ses emails, ça passera. Elle pense que là, ça va passer. Et
effectivement, vous me rendez nostalgique, vous savez.
Elle a l'impression que c'est Jean-Luc Hesse qui est aux États-Unis correspondant de Radio France.
Elle serait élue.
Elle serait élue. Laurence de Rosen, est-ce que cette manière aussi, et encore une fois, je rappelle que vous avez contribué à un ouvrage collectif qui réunit 18 analyses du phénomène narcissique. Il y a évidemment beaucoup de Donald Trump, qui est d'ailleurs en couverture, mais pas seulement. Est-ce que les réseaux sociaux, encore une fois, accentuent la dimension narcissique de nos sociétés, c'est-à-dire la dimension du selfie, la dimension, encore une fois, de cette relation directe. Moi, je pense que... Et au fond, moins j'en sais, plus j'ai le droit de m'exprimer. Et d'ailleurs, je fais davantage confiance à quelqu'un qui ne sait rien. L'ignorance devient presque un facteur de crédibilité.
Vertu.
Absolument,
vertu.
Oui. Mais les réseaux sociaux portent les valeurs qui ont été mises en avant par l'Amérique aujourd'hui, c'est-à-dire l'apparence, les images, le succès. Donc, ils sont un peu responsables là-dessus. Cela étant, je suis thérapeute, j'ose espérer que ces narcissismes portent sur une... Narcisse est à propos d'une recherche de lui-même, de son identité. C'est quand même à propos de ça. Donc, j'ose espérer que les éclats d'aujourd'hui t'as une transition vers plus d'intériorité et plus de conscience de soi-même quand même.
Donc, Jean-Luc Hesse.
Ce qui est curieux, c'est quand je songe au père fondateur, ça m'arrive de temps en temps. We the people, la Constitution, ouais. elle était faite justement pour éviter Donald Trump. Mmh, ces gens qui venaient d'ailleurs et qui savaient que le peuple est parfois dangereux. Alors je vais me faire haïr à dire des choses pareilles.
Mais d'où un système de démocratie indirecte.
Avec des filtres, des primaires, des grands électeurs et tout sauf Donald Trump. Et en 2016, donc 200 et quelques années après la promulgation de cette merveilleuse Constitution, on a la bête.
La bête a un instinct et l'instinct est connecté vers l'inconscient collectif.
Mais surtout
un instinct et un immense talent.
La question technique. Ce qui se passe aujourd'hui, et les pères fondateurs ne pouvaient pas le prévoir, c'est que maintenant on peut parler à chaque Américain. Vous savez, les premiers pères fondateurs, leur discours sur l'état de l'Union, ils l'envoyaient, c'était un texte écrit. Et puis, ils ont commencé à se dire, on parlait de Theodore Roosevelt, à se dire, tiens, ça a commencé un peu après lui, mais on peut parler directement au-dessus par la presse. Et puis, on a parlé de plus en plus aux Américains. Et maintenant, on leur parle individuellement. Twitter, c'est quoi? C'est chacun se retrouve avec un message personnel. Et donc là, il y a une évolution, mais qui ne tient pas uniquement au narcissisme ou à Donald Trump, mais à une évolution de la technologie. Et je crois que les démocraties doivent prendre en compte ça parce que là, il y a une évolution technologique qui bouleverse considérablement nos fonctionnements démocratiques.
Et donc, encore une fois, cette campagne américaine est l'exemple et la caricature d'une certaine manière. Et on peut penser que, encore une fois, en Europe, et on l'a vu au moment du Brexit, où on a retrouvé certains des mêmes acteurs médiatiques, et notamment le directeur de campagne de Trump, avait nourri un site pour aider les champions du Brexit à la fin du mois de juin, et avec encore une fois le même vocabulaire. Merci mille fois à vous tous. Le moment est venu de nous séparer, donc je suis sûre que nous serons, nous en tout cas, à 3 heures du matin.
Absolument.
Suspendus à ce débat aux États-Unis. Donc merci à vous. Laurence de Rosen, vous êtes psychologue clinicienne et psychanalyste, et vous avez donc contribué à cet ouvrage collectif qui s'intitule « Un danger ». Actuel et évident, le narcissisme à l'époque de Donald Trump, c'est en anglais, j'imagine que ce ne sera pas traduit en français.
Ce ne sera pas traduit. Non.
Voilà. Jean-Luc Hesse, merci à vous. Vous publiez aux éditions Baker Street, Hillary Clinton, une certaine idée de l'Amérique. Thomas Snegaroff, historien spécialiste des États-Unis, votre dernier livre, Hillary et Bill Clinton, l'obsession du pouvoir. Vous avez aussi publié L'Amérique dans la peau. C'était chez Armand Collin en 2012. Merci bien sûr à Roger Cohen, éditorialiste au New York Times, qui était avec nous par téléphone. Merci à Eric Scholl, le patron de Courrier International. Eric, vous sortez un hors-série, je crois, la semaine prochaine.
Un hors-série le 28 septembre sur la puissance américaine. Que reste-t-il de la puissance américaine? Une façon d'explorer les 8 années de mandat de Barack Obama et des attributs de la puissance américaine.
Et dans ce hors-série, vous ne dites pas qui aura triomphé du premier débat télévisé.
La réponse lundi, dans la nuit de lundi à mardi.
Merci, merci à tous. Très bon week-end. Et évidemment, comme chaque samedi, dans quelques instants, voici Dominique Rousset pour l'économie en question. Meryl Moneghetti va évidemment s'empresser de mettre sur notre site toute la bibliographie nécessaire. Merci à Jean-Luc Reynaud à la réalisation et à Anthony Thomasson à la technique. Très bon week-end. À samedi prochain.